une lumière a brillé, un enfant est né, un fils nous a été donné. Et je vous souhaite à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue pour ce culte du 25 décembre. Aujourd'hui, nous célébrons Noël, nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et il y a 2000 ans, l'Évangile selon Luc nous raconte que face à cet événement, face à cette bonne nouvelle, face à cette naissance, une multitude d'anges se sont assemblés pour entonner ensemble. Et le texte précise que c'est justement pour l'entonner qu'ils se sont rassemblés. Gloire à Dieu très haut et sur la terre, paix aux hommes favorisés. La prophétie d'Ésaïe annonce elle aussi que cet enfant, Jésus, sera appelé prince de la paix. Nous voilà déjà à deux références avec la paix. Et pourtant, voilà déjà 2000 ans qu'il est né. Et malheureusement, la paix n'est pas encore une réalité partout. Elle ne règne pas encore. Qu'est-ce donc que cette paix qui nous est annoncée? En quoi Jésus est-il le prince de la paix? Comment pouvons-nous nous approprier cette paix? Je vous propose de nous intéresser à cette paix. Et l'Évangile, selon Luc, situe le récit de la nativité en fonction d'un édit de l'empereur Auguste qui ordonne un recensement. C'est César Auguste qui a gouverné de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 14 de notre ère. Et ce règne correspond à une période de l'histoire de Rome qui s'inscrit dans ce que l'on appelle la Pax Romana, c'est-à-dire une soi-disant période de sécurité et d'abondance sur les territoires de l'Empire. Il s'agit de l'âge d'or de l'Empire romain. La Pax Romana, c'est la paix offerte par l'empereur à ses sujets et à son empire. La paix offerte par Dieu est tout autre. Le contraste entre la Pax Romana et la paix incarnée par Jésus-Christ est saisissante. D'un côté, nous avons une paix qui est le résultat de victoires militaires et qui est maintenue par la peur de la répression, l'oppression. Et de l'autre, Dieu nous offre sa paix par une naissance. Dieu fait naître la paix. Et d'ailleurs, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 27, Jésus nous dit, juste avant de nous quitter, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Jésus ne nous donne pas sa paix comme le monde la donne. Et cet été, avec ma femme, nous sommes partis en vacances à Hawaï. Et en nous intéressant un peu à l'histoire culturelle de l'île, nous avons entendu parler du fameux roi Kamehameha Ier, ou Kamehameha the Great. Donc Kamehameha, c'est pas seulement une technique dans Dragon Ball Z, c'est aussi un roi, et il est le fondateur de la monarchie d'Hawaï, et l'histoire se souvient de lui comme de l'unificateur. Et moi, quand on fait ces parcours, quand on me parle d'unificateur, lorsque l'histoire parle d'unificateur ou de pacificateur, ça me laisse toujours un peu perplexe. Généralement, la pacification n'est pas si pacifique et l'unification n'est pas si unie. Dieu n'est pas venu offrir sa paix de la même manière. Et lorsque Dieu nous l'offre, il nous l'offre paisiblement. La paix de Dieu est différente. Et donc on a cette opposition entre la paix de Dieu et cette Pax Romana. On a également une opposition dans le récit entre Hérode et Jésus. Hérode est présenté comme la figure même du tyran, comme la figure de l'Antichrist. Il opprime le peuple qu'il gouverne. Ses sujets sont maintenus dans la paix. Il n'hésite pas à tromper ou à essayer de tromper les mages venus d'Orient. Et il ira même jusqu'à exécuter tous les enfants de moins de 2 ans pour s'assurer sa place. Jamais Dieu, jamais Jésus n'ont utilisé les mêmes méthodes. La paix de Dieu est différente. Et elle est différente parce que la paix de Dieu est indissociable de son prince. Et que son prince, Jésus, lui aussi, est différent. Revenons à l'hymne proclamé par les anges. Donc comme Jean-Luc nous l'a lit, les traductions modernes traduisent par « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes ». Malheureusement, cette traduction n'est pas la plus littérale qu'on puisse trouver. Et je dois même vous avouer que c'est un des rares passages où je trouve que le texte grec est un peu massacré. Littéralement, la phrase signifie « Gloire au très haut Dieu et sur la terre, paix aux hommes favorisés. » Et donc on voit bien que ce n'est pas juste paix pour toute la terre, mais paix aux hommes favorisés. Et c'est le terme « odokias » qui qualifie les êtres humains là, et qui signifie celles et ceux sur qui repose la faveur, le plaisir de Dieu. La paix de Dieu est offerte à ses favoris, à ses chouchous. Ici, le texte nous dit que Dieu a des chouchous. Et si elle nous dit qu'elle a des chouchous, la suite de notre texte nous parle de deux de ses chouchous, deux de ses bien-aimés. Et c'est au moment où Jésus est emmené au temple pour être circoncis, il s'agit de Siméon et de Anne. Et le texte nous dit « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Et le texte nous parle aussi de Anne. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Et arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Et que ce soit Siméon ou que ce soit Anne, ils voient le bébé, l'enfant Jésus, et tout de suite, ils discernent qu'il s'agit du Messie. Tout de suite, ils comprennent qu'il s'agit du prince de paix. Tout de suite, ils réalisent qu'ils ont devant eux la promesse de Dieu. Et donc, ces deux chouchous ont une chose en commun, c'est cette foi. Cette foi qui leur permet de dire et de reconnaître l'enfant Jésus comme le Fils de Dieu. J'étais frappé par... Je lisais une histoire de Don Richardson. Il s'agit d'un missionnaire canadien qui a notamment été en mission en Nouvelle-Guinée. Et dans sa mission, il tentait d'apporter, de transmettre l'évangile aux tribus Saoui. Est-ce que vous connaissez les tribus Saoui de Nouvelle-Guinée? La particularité de ces tribus, c'est qu'elles étaient cannibales, et non seulement qu'elles étaient cannibales, mais qu'elles vivaient dans ce qu'on appelle une culture de la trahison. C'est assez rare pour le signaler. Et le problème, c'est quand on leur parlait de Jésus, pour ces tribus, le héros n'était pas Jésus, mais c'était Judas. Parce que le propre de leur culture, c'était de se trahir et de s'assassiner parmi eux. Et donc, comme on peut l'imaginer, notre cher missionnaire avait un peu de peine à partager cette nouvelle de la venue de Jésus. Et pourtant, arrivé à un moment où il allait abandonner, il a entendu parler de ce que les tribus appelaient l'enfant de paix. C'est-à-dire que, aussi terrible qu'était cette culture, ils avaient cette tradition où pour faire la paix entre deux clans, deux tribus, ils s'échangeaient des enfants en bas âge. Et donc chaque tribu élevait l'enfant de l'autre tribu, et tant que cet enfant était en vie, qu'il vivait et qu'il allait bien, la paix régnait entre les tribus. Et bien entendu, Don Richardson, lorsqu'il entend parler de cette pratique, il leur explose tout de suite, mais Jésus-Christ est l'enfant de paix. Dieu vient faire la paix avec l'humanité. Dieu nous offre son Fils pour faire la paix avec nous. Et donc c'est par la foi que je reconnais qui est Jésus. Et donc c'est par la foi que je reconnais qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Prince de paix, et que Dieu est venu faire la paix avec nous à Noël. Jean-Luc l'a évoqué dans son introduction, cette notion de lumière. Cette notion de lumière parcourt ce récit de la nativité. On voit d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu cette étoile filante, cette étoile qui conduit les mages. Ça nous pose un peu des problèmes parce que d'un point de vue astronomique, on comprend pas très bien quelle est cette étoile. Ésaïe nous dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, une lumière a brillé. Zacharie, dans son fameux cantique, termine par « Le soleil levant nous a visités pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Siméon lui-même, lorsqu'il voit l'enfant Jésus, déclarera à la fin « Lumière pour éclairer les nations. » Et je pense que la lumière est une très belle image pour parler de la paix que Christ est venu faire. Tout d'abord, cette lumière nous rappelle la lumière de la création. Cette semaine, j'ai essayé d'aller acheter une Bible à ma filleule, et toutes les Bibles pour enfants commençaient par « Au commencement, la terre était informe et vide. » Alors, autant vous dire que j'en ai acheté aucune, parce que la Bible ne commence pas par ça, la Bible commence par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Le ciel et la terre étaient encore un tohu-bohu, une forme informe et vide. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux et Dieu dit que la lumière soit. Au moment de le premier acte créateur de Dieu, c'est de dire que la lumière soit. Et je crois qu'on peut justement se dire que dans notre récit de la nativité, lorsque il est dit qu'une lumière a brillé, ça dénote un acte de création de la part de Dieu. Dieu démarre un nouveau projet. Et ce nouveau projet, c'est son royaume qui vient. Et le propre également de la lumière, c'est que je ne peux pas la posséder. Alors, je peux avoir une lampe, mais je ne peux pas mettre de la lumière dans ma poche. Je ne peux pas la conserver. La seule façon de rester éclairé, c'est de me tenir proche de la source de lumière. Et j'aimerais finir par vous adresser cet encouragement. Christ est né, un enfant nous a été donné, avec lequel Dieu fait la paix avec nous. Dieu fait la paix avec toi au travers de son Fils. Approchons-nous donc de lui. Cherchons cette lumière qui a brillé au sein des ténèbres et restons-y. Restons proches de cette paix. Et non seulement nous pouvons y rester avec joie, avec une certaine assurance, mais cette lumière qui s'est mise à scintiller, à briller il y a 2000 ans, est pour nous une assurance que, peut-être pas demain, peut-être, mais qu'un jour nous habiterons le pays de la paix, qu'un jour dans le royaume de Dieu nous serons paix, nous serons en paix. Je vais finir par la prière. Seigneur, on veut invoquer ta présence au milieu de nous. On veut célébrer ce Fils que tu as été, cette lumière que tu as incarnée, cette paix que tu nous offres. Seigneur, que cette paix qui est intérieure, que cette paix qui est en fait une paix de salut, puisse resplendir. Et Seigneur, qu'en ces jours de fête, tu puisses apporter ta paix et que nous soyons des artisans et des ouvriers de cette paix dans nos familles. Et que voilà, tu puisses apporter consolation et que tu puisses apporter cette paix à toutes celles et ceux qui vivent dans l'effroi, dans la terreur. Et on veut avoir cette parole de consolation pour eux. Seigneur, donne-leur ta paix. Et Seigneur, que cette foi qui fait naître cette paix puisse croître et rayonner dans nos cœurs. Amen.